Journée spéciale 80e anniversaire du débarquement sur Radio VFM, de nombreux rendez-vous et un témoignage ce matin qui va nous accompagner dans cette grande famille spéciale 80e anniversaire du débarquement. Nous recevons ce matin l'historienne viroise Jeanine Coq. Jeanine Coq qui a beaucoup œuvré donc pour l'histoire de notre ville, qui était présente hier soir à l'inauguration de cette superbe exposition qu'on vous invite à découvrir à la Porte Horloge sur la ville bombardée, sur la reconstruction, une exposition qui va vous accompagner tout l'été. Mais aujourd'hui, eh bien, on va revenir sur les temps forts de ces heures qui ont marqué le débarquement à Vire, les heures avant le bombardement de la ville et après également. Jeanine Coq est avec nous aujourd'hui dans nos studios pour être notre historienne sur cet événement et revenir point par point sur ce qu'ont vécu les Virois dans ce bocage meurtri de ce 6 juin 44. Jeanine Coq, merci d'avoir d'abord accepté notre invitation.
Alors, été 44, c'est la page la plus noire de l'histoire de Vire, une histoire qui est pourtant longue de plus de 1000 ans, mais cet été 44 est marqué par un véritable drame qui efface l'image traditionnelle de Vire, puisque c'est à la fois et le bombardement et la libération. Bombardement qui survient au terme de 4 années d'occupation, puisque les Allemands sont arrivés à Vire le 17 juin 1940, et c'est la Panzerdivision de Rommel qui pénètre dans Vire par la rue du Haut-Chemin. Rommel d'ailleurs est là, il est présent, il est en 4e position dans la colonne. Et pendant 3 heures, c'est un déferlement mais assourdissant de chars, d'auto-chenilles, de camions autotractés, suivis par des divisions plus légères. Mais ce 17 juin 40, les Allemands ne font que traverser la ville. Ce qui les intéresse, c'est filer sur Cherbourg, en passant par Villedieu, Coutances et direction Cherbourg. 2 jours plus tard, le 19, ils sont de retour et ils vont prendre leur quartier. Il est évident que quand ils prennent ces quartiers, on ne sait pas qu'ils s'installent pour 4 ans. Donc ils vont mettre en place d'abord le carcan administratif, à savoir la commandantour, qui pendant 2 ans prend possession de la salle des mariages de l'hôtel de ville, et pour des raisons de facilité, elle déménage en 1942. Ses services éclatent en 2 blocs. Un premier qui s'appelle la Kreiskommandantur, qui s'installe au premier étage d'un magasin. Le rez-de-chaussée est occupé par le magasin des Deux Nègres. Quand on connaît le racisme des Allemands, ça ne manque pas de sel. D'autant plus que ce magasin a pour propriétaire un couple de Juifs qui vient d'ailleurs de quitter Vire pour des raisons de sécurité. La Kreiskommandantur est en liaison directe avec la sous-préfecture. Et un deuxième service de Kommandantur s'installe un peu plus bas dans la rue du Calvados, c'est l'Ortskommandantur, celle qui s'occupe directement des affaires de la ville, et c'est là entre autres où les Virois vont payer leurs amendes pour avoir circulé après le couvre-feu ou n'avoir pas respecté un blackout total, un mauvais camouflage des maisons et autres. Alors les Allemands ont réquisitionné un certain nombre d'immeubles, bien sûr, et notamment une maison qui existe toujours et qui est rue d'Aigneaux. Elle s'appelait à l'époque la maison des demoiselles Gallet. Là s'installe la Feldgendarmerie qui assure la police de la ville, car il n'y a pas de Gestapo à Vire. Lorsque les Allemands le jugent bon, ils font appel au service de camp. Mais Vire n'a pas de Gestapo. Alors les Allemands ont réquisitionné bien sûr les écoles pour loger les hommes de troupe, ont réquisitionné un certain nombre de chambres d'hôtel, notamment au Cheval Blanc, où ils logent leurs officiers. Ils ont réquisitionné la SGE, évidemment, c'est la principale industrie de Vire à ce moment-là, et comme elle travaille pour l'aviation, ils ont mis la main dessus. Ils contrôlent totalement la gare, et les cheminots de la Reichsbahn exercent un contrôle extrêmement étroit sur les cheminots virois. Ils ont réquisitionné le cinéma Select, qui devient Kino, 4 ou 5 fois par semaine. Ils ont ouvert un casino à l'emplacement de ce qu'on appelle le château Janin, c'est-à-dire rue du Calvados maintenant. Ils ont également ouvert, pour, comme on dit, le repos, le plaisir du militaire, une maison de tolérance. Pour les officiers, route donnée, et les hommes de troupe ont le droit de fréquenter celle de la rue des Usines. Il n'y a pas d'occupation très dense à Vire. Jamais plus de 150 à 200 hommes. Vire n'a pas une importance stratégique pour les Allemands, aux yeux des Allemands. Ce sont des hommes de la Wehrmacht, pas des SS. Donc les Virois font bien la différence. Donc ça donne en proportion à peu près un Allemand pour 40 Virois. Ils ont surtout réquisitionné ce qui est le collège Maupa maintenant et qu'on appelait l'EPS. Ils y ont établi une boulangerie, une très grosse boulangerie, qui ravitaille toutes les unités allemandes du secteur du district de Vire. C'est dans l'immédiat le cadre qui subsiste encore au matin du 6 juin. C'est la guerre changée. Alors, ce qui rend l'occupation insupportable, beaucoup plus que la présence physique des Allemands, d'abord ce sont les restrictions alimentaires. Les Virois ont touché des jeux de cartes de ravitaillement dès l'automne 1940. C'est l'époque de la queue, du pain gris, des jours sans, alors sans viande, sans sucre. Ces restrictions sont dues au fait que les Allemands font de gros prélèvements, d'une part, et d'autre part parce que la France se trouve coupée de bases de ravitaillement de produits tropicaux, c'est-à-dire ces anciennes colonies qui nous apportaient les arachides, le cacao, etc. Donc, les restrictions. Alors, je crois qu'il faut bien faire attention qu'à Vire, les restrictions sont très relatives. Il y a encore beaucoup de jardins en ville même. La campagne est toute proche et on y va le dimanche, à grands coups de pédale, même si la rue Hermangaté est dure à gravir quand on revient avec les sacs très pleins. On va chercher du ravitaillement en campagne et puis on utilise, comme partout ailleurs, les ersatz, les succès d'année, c'est-à-dire les produits de remplacement. Quand on n'a pas de farine de froment, on utilise la farine de pois chiche. Quand on n'a pas de riz, on fait un gâteau de riz sans riz avec des pâtes à potage, etc., etc. On grille des glands ou des fèves ou de l'orge pour faire du café. Et quand on n'a pas de tabac, eh bien ces messieurs, surtout parce qu'à l'époque les femmes fument peu, fument des queues d'ail, des tiges d'ail séchées. Ça sent très mauvais, ça fait tousser. Mais faute de grive, selon l'expression traditionnelle. Donc, c'est surtout cette partie-là qui est peut-être la plus difficile à vivre, mais tout en étant très relatif, sachant que les Virois élèvent presque tous des poules et des lapins. Donc, on peut pallier facilement les manques. Les Virois avouent qu'ils n'ont pas été malheureux au niveau des restrictions, et on dit que Vire appartient à la France du beauf, beurre, œufs, fromage, et non pas à celle du rutabaga.
La suite de notre émission spéciale donc avec Jeanine Coq ce matin concernant donc Vire, du temps de la guerre, le bombardement et l'après-guerre, la reconstruction. Avec Jeanine Coq, historienne de la ville. Alors, comment se passait la vie des Virois, Jeanine Coq, pendant donc la guerre? Comment vivait-il l'occupation?
Difficile à vivre tout ce qui touche les réquisitions. Alors, réquisition, bien sûr, d'armes, postes de radio et autres, puisqu'il est interdit d'écouter la radio de Londres. Réquisition surtout de main-d'œuvre, soit dans le cadre du STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire. Tous les jeunes Français, à partir de 18 ans, peuvent être réquisitionnés soit pour aller travailler en Allemagne, soit pour aller travailler dans ce qu'on appelle l'organisation Todt, qui contribue à fortifier le mur de l'Atlantique, construit donc les blockhaus, les bunkers et autres, notamment sur la côte du Calvados. Les Allemands, à mesure que les années passent, deviennent extrêmement nerveux et procèdent d'abord à toute une série de rafles et d'arrestations, puisqu'au total, ce sont, pour le district de Vire, 200 personnes qui ont été inquiétées à des titres divers. Ça va du simple internement de quelques heures à quelques jours, mais ça peut être un emprisonnement de longue durée, voire la déportation et les camps de la mort. Les premières arrestations touchent d'abord les communistes. Deuxième vague d'arrestations, les juifs. Et Olivier Kerwel a fait un excellent travail sur l'arrestation des juifs de Neuville. Troisième vague d'arrestations touche ceux qu'on appelle les anglophiles, c'est-à-dire ils ne sont pas affiliés à un réseau, mais simplement ils sont soupçonnés de gaullisme ou d'anglophilie. Et ça touche notamment des commerçants virois très connus, Edmond Jourdan, Gustave Lair, le patron de l'Hôtel de France, ou encore André Leroy, qui profite d'avoir un poste émetteur-récepteur pour être en relation directe avec Londres. Il y a bien sûr les arrestations aussi des résistants, et notamment Le démantèlement, là nous sommes en 1944, c'est-à-dire très peu de temps avant le débarquement, le démantèlement du réseau arc-en-ciel, c'est un groupe d'hommes très jeunes, ils sont une demi-douzaine, ils ont entre 22 et 28 ans, et le chef de ce groupe est le gendarme Gilbert, qui a été dénoncé, parce qu'à Vire, il y a des collaborateurs comme partout, il a été dénoncé par son propre lieutenant de gendarmerie. Ils sont arrêtés en mai 1944, déférés à Caen et fusillés à Caen pratiquement immédiatement. Un autre réseau a été démantelé, c'est celui des Bruyères de Montchauvet avec Henri Chu, qui lui aussi est déporté. Donc, en masse, à partir de 1944, surtout des arrestations et des déportations.
Jeanine Coq, historienne de la ville, est avec nous sur Radio VFM. On en arrive maintenant au bombardement de la ville et au débarquement. Qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents, donc, ce bombardement de la ville, Jeanine Coq?
Les mois ont passé, les années ont passé. On sait que le débarquement va avoir lieu. Quand? On ne sait pas. Où? On ne sait pas. Et les spéculations vont bon train dans les cafés virois parce que lorsqu'on spécule, on dit non, ça ne peut pas être sur les côtes de Bretagne, c'est trop loin. Les côtes normandes, impossible, elles sont beaucoup trop fortifiées par l'organisation Todd. Donc les Virois sont convaincus que le débarquement va avoir lieu là-haut, dans le Pas-de-Calais, 32 km de distance entre Dunkerque et l'Angleterre, c'est extrêmement faisable. Et pourtant, tous les résistants ont capté un message que tous les Français connaissent. Les fameux « sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone » sont les vers de Verlaine qui alertent les résistants, mais de France. Les Normands ont reçu un autre message qui correspond aussi à deux vers d'un poème, cette fois c'est Musset. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Le débarquement va avoir lieu en Normandie. Et enfin, Christian Parléani, qui est le prof de maths du collège Maupas, lequel collège Maupas se trouvait où est le champ de foire actuellement, capte un message le 5 au soir, les dés sont sur le tapis. C'est-à-dire, le débarquement est imminent, il va avoir lieu cette nuit, et les résistants, notamment les résistants du maquis Guillaume le Conquérant, qui est le maquis de Chantdubout, doivent passer à ce qu'on appelle le plan violet, attaque des convois allemands et sabotage. La nuit du 5 au 6, les Virois dorment mal, parce qu'il y a sans arrêt des passages d'avions, à tel point que l'alerte sonne à la porte-horloge. Et puis, au petit matin, un grondement sourd, tout le monde dit comme le bruit d'un tonnerre lointain, ce sont les canons à longue portée de l'escadre au large des côtes du Calvados, et à 7h du matin, la nouvelle tombe. Ça y est, ils ont débarqué, et ils ont débarqué, là où on ne les attendait pas, sur les côtes du Calvados. Côté allemand, c'est l'affolement. On entend les portes qui claquent, les voitures qui démarrent en trombe, et les Allemands qui crient « Achtung !» à l'arme, et qui partent en direction de Caen. Et curieusement, à Vire, mais c'est vrai pour toutes les villes de Basse-Normandie, il y a une sorte de silence extrêmement pesant qui s'installe, qui est fait à la fois d'anxiété et d'une attente un petit peu fébrile parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Dans un premier temps, spontanément, les parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école. Bien que le sous-préfet, qui va toute la journée sous-estimer la gravité de la situation, ait refusé la fermeture des écoles. Et le principal du collège, M. Martin, a pris sur lui de renvoyer les internes. Dans la matinée, un mitraillage sur Saint-Clair, le mitraillage d'un convoi allemand. Quelques familles vont prendre peur, partent en direction des monts, mais c'est vraiment très limité, ça se compte sur les doigts d'une main. La journée passe, en début d'après-midi, nouveau mitraillage, cette fois sur la gare, et le quartier de la Mercerie, le village de la Mercerie est touché. Et là, il se passe un acte d'héroïsme assez inattendu. La ferme des Lecomte, les fermiers de la Mercerie, brûle. Et un Allemand, qui était en train de décharger de la farine, puisque je vous ai dit qu'il y avait une boulangerie installée dans le collège, dans le PS, sur les hauteurs de Vire, s'aperçoit que cette ferme brûle. Et il voit le fermier qui rentre dans la ferme parce qu'il a oublié de prendre des papiers. La famille était saine et sauve. Et l'Allemand voit le fermier rentrer, mais il ne le voit pas sortir parce qu'il est sorti par une porte de derrière. L'Allemand lâche son sac de farine, se précipite dans la ferme pour sauver le fermier, et c'est lui qui meurt brûlé. Dans l'après-midi, le bruit court. C'est parti des cafés de la rue Sonnerie ou de la rue Chaussée, le bruit court que les chars américains sont aux portes de Vire. Et un peu plus tard, que Vire va être libéré par des parachutistes. Et ça, il faut bien le retenir parce que c'est une explication, une partie de l'explication du drame que Vire va connaître. On attend des parachutistes parce qu'on a entendu à la radio, il y a quand même eu quelques postes de radio sauvés des réquisitions, on a entendu que, entre autres, Sainte-Mère-Église, les Marais de 40 ans, avaient accueilli une division airborne. Donc on est convaincu que Vire va être délivré lui aussi par des parachutistes. Et on apprend aussi que des tracts sont tombés. Notamment un tract, la radio annonce que les villes qui ont reçu ces tracts, la population doit évacuer. Et notamment les villes qui sont situées dans un rayon de 55 km au sud des plages du débarquement. Et d'autre part, que lorsque vous avez un tract vous invitant à partir, il faut partir. Or, sur Vire, même, aucun tract n'est tombé. Ou plus exactement, les containers ont été déportés. Déportés vers la Croix-des-Monts, vers Maisoncelles ou sur la voie ferrée Vire-Saint-Sever. Et lorsque les requis qui sont chargés, dans le cadre du STO, de garder cette voie ferrée Vire-Saint-Sever apportent les tracts à la sous-préfecture, ils se font traiter de panicards. Donc la population ne bouge pas. 20 heures, un grondement qui annonce l'arrivée d'une formation d'avions. Arrive effectivement une formation de B-24, 25 B-24. Ce sont des bombardiers lourds, qui sont équipés de 10 mitrailleuses, qui ont à bord une dizaine d'hommes et qui sont chargés de bombes de 200 kilos. Et pour les Virois, ce sont les parachutistes qui arrivent. Donc on crie, mais venez, venez, on sort, on se met aux fenêtres, on va dans la rue, on interpelle les uns les autres, ils arrivent, venez voir. Et on voit effectivement des petits points noirs qui se détachent des avions. Avions de tête, avions de queue lâchent chacun une fusée pour baliser ce qui va se passer. Et il n'y a guère que le commandant Nöding, le commandant allemand Nöding, qui est debout sur les marches de l'hôtel du Cheval Blanc, et qui regarde, qui scrute le ciel avec ses jumelles, qui lui, en tant que militaire, comprend ce qui va se passer. Et il crie « des bombes ». Et c'est l'effondrement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le ciel se déchire, le sol tremble, les murs ondulent avant de s'écrouler. C'est l'effondrement, c'est-à-dire l'enfer, pendant 3 minutes. Il est 20 heures, pendant 3 minutes, c'est l'enfer. Même pas le temps pour les Virois de réaliser ce qui se passe, parce qu'il y a deux choses. Il y a la peur physique, la peur cellulaire de ce qui se passe, mais il y a aussi le temps d'adaptation mentale. On attendait les libérateurs, on attendait des parachutistes, et c'est la mort qui tombe du ciel. Il faut le temps de réaliser, et ça, ça ne se fait pas comme ça en 5 secondes. Les B-24 repartent, ils sont de retour 4 minutes après, deuxième vague de bombardement. Et cette fois, ils sont chargés de bombes incendiaires, c'est-à-dire qu'à l'écrasement va succéder l'incendie. Alors ce qu'il faut bien réaliser, c'est que Vire est une ville extrêmement concentrée sur son piton rocheux et que le secteur qui est touché était vraiment particulièrement bien visé. C'est ce qu'on appelle le haut de la rue ou encore le carrefour. C'est le secteur le plus vivant, le plus dense de Vire. Il correspond, grosso modo, à l'actuel parterre du rond-point. C'est le croisement de la rue du Calvados, de la rue du Haut-Chemin, de la rue des Longrées et de la rue aux Fèvres, qui à l'époque part de la Porte-Horloge, sous la Porte-Horloge, elle monte vers Saint-Thomas. Et là, il y a un carrefour extrêmement dense, et c'est celui-là qui est touché. C'est-à-dire qu'il vient de s'écrouler, et maintenant il brûle. Et ça devient un gigantesque brasier dont les flammes atteignent 20 mètres de haut. Tous les secteurs de Vire, en l'espace de 7 minutes, sont atteints. C'est-à-dire depuis l'avenue de la gare jusqu'à la rue aux Teintures, et même au-delà jusqu'à la piscine d'été sur la route de Maisoncelles et le pont aux Rats. Et là, c'est grave parce que ce sont surtout des enfants qui sont touchés. Et de l'autre côté, les dégâts vont, je vais dire, de Saint-Thomas jusqu'à la rue Girard, jusqu'à Martilly. Tout est touché. La ville à la fois s'écroule et brûle. Elle va brûler pendant 15 jours. Après cette deuxième vague, les avions repartent. Et on voit alors les premiers rescapés qui sortent des décombres. Et ce sont des scènes, mais vraiment de panique ou d'épouvante. Les cris, la poussière, c'est des témoignages qui nous ont souvent été donnés. L'impossibilité de voir et de respirer, tellement le nuage de poussière est suffocant. Impossible de respirer parce qu'il y a cette odeur de soufre et de phosphore qui provient des bombes incendiaires. Et puis surtout, petit à petit, et ça va en s'amplifiant, l'odeur écœurante du sang, parce qu'il y a 300 Virois dans un premier temps, 300 Virois sous les décombres.
Merci Janine, on se retrouve d'ici quelques minutes, on va marquer une pause bien méritée et se replonger dans ce fameux chant des partisans qu'on écoute ce matin sur Radio VFM pour cette journée spéciale 6 juin, 80e anniversaire.
Tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si